Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, je crois que c'est une bénédiction de se retrouver sous le regard de Jésus-Christ. Alors nous allons partager ce soir un aspect de notre vocation. Est-ce que ça vous intéresse? La vocation, c'est quoi? Oui, la vocation, c'est faire les choses que nous sommes appelés à faire. Nous allons lire une partie dans 2 Pierre au chapitre 1er. L'apôtre explique que c'est certainement la façon de ne jamais broncher. Est-ce que ça vous intéresse d'être fort? Est-ce que c'est la volonté de Dieu d'être fortifié, toujours fortifié? Est-ce que c'est biblique? Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Je suis fort, fort. Oui, la volonté de Dieu, c'est que l'on soit fort, mais pas par nous-mêmes. Surtout pas de penser qu'on sera fort par nous-mêmes. Lorsque Pierre adresse sa deuxième épître, il explique qu'il faut s'appliquer justement à affermir notre vocation et notre élection. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce verset. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Donc je pense qu'il y a ce soir parmi nous des hommes et des femmes qui veulent ne pas broncher. Donc il faut s'appliquer à affermir sa vocation et son élection. L'élection, c'est notre position en Christ. Vous connaissez ce verset, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc quand vous répondez à l'appel de la croix, lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur, puis comme Seigneur, vous répondez à l'appel, donc vous êtes élu. Bon, ça, il faut tout le temps, bien sûr, se maintenir dans le salut. Mais il est d'abord dit, appliquez-vous à affermir votre vocation. Et par exemple, dans la première épître de Pierre, on va en voir un ce soir. Et c'est important que vous compreniez cela. Dans 1 Pierre au chapitre 3, au verset 9, il y a une partie de ce qu'est l'appel, de ce qu'est la vocation. C'est bien dit, c'est pour ça que je l'ai pris. 1 Pierre au chapitre 3, verset 9. Ne rendez pas mal, point le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Remarquez qu'il est écrit, c'est à cela que vous avez été appelés. Vous me suivez, la vocation, c'est ça. Chaque fois que vous verrez dans la Bible, c'est à cela que vous avez été appelé, ça correspond à votre vocation. Beaucoup de chrétiens se débattent avec la volonté de Dieu. Seigneur, ils se débattent. Ils veulent faire la volonté de Dieu. Certains même prient pour avoir une vision, un songe. J'en ai même entendu qui ont dit, Seigneur, si tu m'envoyais un ange pour me parler, ça me fortifierait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut juger la prière de quelqu'un qui dit « Seigneur, envoie-moi un ange, si tu m'envoies un ange, j'aurai une foi beaucoup plus grande ». Moi, je ne suis pas du tout sûr. De toute façon, la révélation, elle est dans la parole de Dieu. Tout ce que nous avions besoin de savoir, c'est dans la Bible. Et si même Dieu vous envoyait un ange, ça ne serait pas pour vous dire autre chose que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que si Dieu vous donnait une vision, ça ne serait pas pour ajouter, croyez-moi, autre chose. Ça ne pourrait que confirmer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Dieu peut accorder une révélation, Dieu peut accorder un songe, j'en suis sûr, mais rappelez-vous, ça sera toujours en accord avec la parole de Dieu. Ce verset nous dit que nous sommes appelés à bénir. Dans la question que nous allons nous poser ce soir, est celle-ci, est-ce que nous nous appliquons à bénir? Est-ce que c'est important pour vous de bénir les autres, de bénir Dieu, de bénir votre nation, de bénir votre église, de bénir votre ville, de bénir votre famille, car c'est la volonté de Dieu de bénir. Vous l'avez lu avec moi, bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Est-ce que vous voulez être béni? Comment vous voulez être béni? Beaucoup? Est-ce que Dieu peut vous bénir beaucoup? Ben oui. C'est la volonté. Jésus, quand Jésus est venu, il a dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est la volonté de Dieu de vous bénir. En tous les cas, spirituellement, c'est certain. Dieu veut vous bénir spirituellement. C'est le Jean qui dira, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que notre âme prospère. Mais Dieu n'est pas contre toutes sortes de bénédictions. C'est Dieu qui bénit. On a même vu dimanche matin que Dieu avait béni beaucoup de pécheurs et que ça avait contrarié énormément le Asaph. Mais Dieu bénit, c'est Dieu qui bénit. Mais il y a des comportements qui peuvent empêcher la bénédiction de venir sur notre vie. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre quelle est notre vocation. Nous sommes appelés, par exemple, à la sanctification. C'est écrit ça, que vous êtes appelés à la sanctification ? Oui. Alors donc, on s'applique à se séparer de certaines choses mondaines pour vivre dans cette vie de sainteté. Donc, Dieu veut bénir. Ça, c'est certain. Vous comprenez bien qu'il y en a un qui n'est pas du tout d'accord avec cette affaire-là. La Bible nous présente le diable comme celui qui veut détruire, voler, égorger, malmener notre foi. La volonté du diable, c'est que quand il nous arrive du mal, ou lorsqu'il nous arrive un conflit, d'ailleurs, si vous avez vu, ne rendez pas le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, que la vie, elle est faite de conflits, oui ou non ? Est-ce que c'est normal d'avoir des conflits ? Un jour, je t'ai dit que non, c'est pas normal, un chrétien ne devait jamais avoir de conflits. Mais c'est d'un ridicule. La vie, elle est faite de relations humaines. Qui dit relations humaines, dit problèmes et difficultés. Et le Seigneur Jésus, il dit bien, ne rendez pas le mal pour le mal. Ce qui prouve qu'on subit du mal. Ce qui prouve qu'on subit des injures. Ça peut arriver, des injures ? Eh bien oui, ça peut arriver. Et le Seigneur, attention, ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas injure pour injure. Bénissez. Vous êtes appelés à bénir. Quand on ne bénit pas, eh bien on se fait du mal. Et on s'enferme dans le désert. Vous avez vu le nombre de fois où la Bible parle du désert. Vous avez vu, dès qu'ils ont désobéi, paf, ils se sont enfermés dans le désert. Ça a duré 40 ans. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. C'est un principe divin. Lorsqu'on désobéit, on se projette dans le désert. C'est spirituel, ça n'a rien à voir avec la géographie. C'est quelque chose de spirituel. Parce que le désert symbolise toujours l'errance spirituelle. On erre, voilà. Dès qu'on ne comprend pas une parole de Dieu, de suite, on va errer. Vous vous rappelez quand Caïn a mal réagi quand il a offert le sacrifice, qu'est-ce que Dieu lui a dit ? Caïn, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Il ne l'a pas fait, vous connaissez la suite, il a erré toute sa vie. Toute sa vie, il a erré. Le problème, quand on ne reçoit pas une parole de Dieu, eh bien, on va errer. Et le désert représente toute cette difficulté dans laquelle on s'enferme, l'endroit où on est découragé continuellement. Ça vous est déjà arrivé d'être découragé pendant quelques semaines ? Oui, moi, ça m'est arrivé plus longtemps même. Et voilà, c'est le désert. On ne le voit pas, vous parlez avec la personne, on ne voit rien du tout. Elle peut être très bien habillée, très bien pomponnée, dans une très belle maison, dans une belle poule côté d'une piscine, mais son cœur est dans le désert. Et il y a des gens qui ont vécu dans des conditions physiques lamentables, mais qui étaient dans une véritable oasis spirituelle. Voilà, c'est quelque chose d'intérieur. Dès qu'on murmure, paf, c'est pareil, on se fait piéger et on tombe dans un désert spirituel. Regardez tout ce qui s'est passé dans le désert et vous comprendrez quels sont les comportements qui nous enferment dans le désert. Vous vous rappelez que même ils en sont arrivés à regretter l'Égypte. Vous vous rappelez ? Dans le désert, ils regrettaient l'Égypte, les melons et les cornichons. Ah, il valait mieux, ne valait-il pas mieux pour nous qu'on meure en Égypte ? Vous voyez, voilà, ça c'est l'image du désert. Quand un chrétien, ah, c'était bien, le monde, c'était... Voilà, c'est clair, il est dans le désert. Parce que croyez-moi que quand on est dans la grâce de Dieu, on n'a envie pas de retourner dans le monde, croyez-moi. Voilà, tout ça pour vous dire que ce sont des phases qui nous indiquent si oui ou non nous sommes dans le désert. Chaque fois qu'on désobéit, on retourne dans le désert. On peut y rester quelques secondes, on peut y rester quelques heures, on peut y rester quelques semaines, quelques mois, ou voire même des années. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans le désert, quoique Dieu parfois permette qu'on s'y trouve. Pourquoi Dieu permet-il qu'on se trouve dans le désert parfois ? Pour nous donner soif. Pour nous donner soif. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous nous installions dans le désert. Par contre, Dieu peut le permettre. Il y a un texte dans Osée où Dieu dit, eh bien, je te conduirai dans le désert et là, je parlerai à ton cœur. Vous voyez comme quoi, il y a des endroits où on n'écoute pas, mais il y en a d'autres, on commence à réfléchir. Donc, appelez à bénir. Ce soir, je voudrais que vous ne reteniez que cette parole, je suis appelé à bénir. Ça fait partie de ma vocation. Rappelez-vous la promesse qui se rattache. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. De ne pas rendre le mal pour le mal. De ne pas juger. Est-ce que vous avez remarqué, c'est peut-être propre à la culture française, qu'on a la facilité de juger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me trompe? Des fois, quand même, on est tordu. C'est pas vrai? Allez, il n'y a que moi qui suis comme ça? Il n'y a que moi? Il n'y a que moi, c'est ça? C'est impressionnant combien on a cette facilité de juger. Et heureusement que Dieu, dans sa grâce, lui, ne nous juge pas. Et qu'il ne nous condamne pas. Parce que s'il nous avait traités selon nos péchés, personne n'arriverait au bout. Mais il nous dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. On a vite fait de juger quelqu'un, pour une raison ou pour une autre. Un chrétien va quitter l'assemblée, on va avoir vite fait de le juger. Bien sûr qu'il a tort de quitter l'assemblée, mais est-ce qu'on a raison de le juger parce qu'il l'a quitté? C'est la question qu'il faut se poser. Il a tort, mais nous n'avons pas raison de le juger, parce qu'il a choisi de quitter l'Assemblée. Nous avons tort de juger, par contre nous avons toujours raison quand nous décidons d'aimer. Même s'il a choisi de quitter l'Assemblée, moi Seigneur, je vais continuer à l'aimer. Si vous le jugez, vous ne l'aimez pas. Si vous continuez à l'aimer, vous le bénissez. Et quand vous bénissez, vous héritez la bénédiction. Quand vous priez pour quelqu'un, oh, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais ça ne fait rien. Je continue à prier pour lui. C'est la preuve que vous continuez à l'aimer. Et ça, c'est important. Parce que Dieu veut vous bénir. Oh, c'est un conflit entre les ténèbres et la lumière, la puissance de Satan et la puissance de Dieu. C'est un combat continuel. Jusqu'à la fin, nous aurons ce combat à mener. Et où nous sommes, je vous l'ai dit, dans le désert, où nous sommes dans les verts pâturages. Et quand Dieu est notre berger, il nous conduit dans les verts pâturages si on fait ce que le berger nous demande. Et quand on ne juge pas, les gens, ils le sentent. Ils sont pas fous, les gens, vous savez. Je racontais cet après-midi le témoignage d'un frère. J'étais sur le parking, c'était en Polynésie. Et il y a une sœur qui est revenue. Ça faisait des années qu'elle était partie. Et il lui a dit, « Ah, mais moi, je croyais que tu étais morte. Hein? C'est maintenant que tu reviens. Tu dois avoir des problèmes. » Ah, ça fait du bien, oui. Et la sœur, elle était en colère. Elle revenait. Elle avait fait des efforts. Je crois qu'il aurait mieux valu lui dire, on est content de te voir. On a besoin de toi dans l'église. On a besoin de toi pour le combat. Vous ne croyez pas que c'est... Ça ne tient pas à grand-chose. Vous voyez, ça fait plaisir de te revoir. Et bien, même s'il y a des problèmes, et bien, c'est pas grave. Je veux dire, le Seigneur va l'aider. Vous voyez, c'est ça, bénir. Et la façon dont on parle va blesser ou va bénir. C'est pour ça que la Bible dit, soyez lent à parler et prompt à écouter. Mes frères et sœurs, bénissez. Souvent on chante, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais je peux vous dire que quand quelqu'un commence à bénir, à se décider à bénir, eh bien croyez-moi que la grâce de Dieu va venir sur lui. C'est une loi du royaume de Dieu. Bénissez. Alors qu'est-ce qu'on peut bénir? Comment on peut bénir? C'est quoi bénir? Parce que je suis sûr que si quelqu'un venait pour la première fois dans l'église, et on lui dit, voilà, il faut bénir. Ah, il faut bénir, oui, il faut bénir. Mais je suis sûr qu'il ne comprendrait pas ce que cela veut dire. Mais voyez, quand vous priez pour quelqu'un, vous le bénissez. Voyez, quand vous priez pour votre nation, Seigneur, bénis cette nation. Tu m'as placé dans cette nation. Seigneur, eh bien, je veux bénir ce pays. Vous croyez que Dieu va bénir? Quand Dieu dit, ce pays, il est pourri, il ne vaut rien. Là, je pense que vous allez avoir du mal à avoir vos prières exaucées. Si Dieu nous a placés dans une nation, il faut apprendre à la bénir. Alléluia. Et si vous vous levez, Seigneur, je veux bénir ce pays. C'est vrai que tout n'est pas clair, tout n'est pas rond, mais ça ne fait rien, clair ou pas clair, ça m'est égal. Moi, tu me demandes de prier pour les autorités de ce pays, eh bien, je vais prier pour les autorités de ce pays, parce que c'est écrit, avant toute chose, priez pour ceux qui vous gouvernent. Ah, mais moi, je ne suis pas de tel parti. Et ça a changé. Ouais, il faut que je prie pour... Hein? Eh oui, nous, on n'est pas dans la politique, nous. On est dans le spirituel. Et on doit prier pour ceux qui nous gouvernent. Seigneur, étends ta main sur ceux qui nous gouvernent. C'est biblique. Plutôt que de traiter l'un de cornichon et l'autre de ceci, vous croyez que ça plaît à Dieu, ça? Et on l'entend, ça, dans la bouche des chrétiens. Et celui-là, c'est un imbécile. Et qu'est-ce qu'on l'a mis ministre de tel truc, etc. Je ne crois pas que ce n'est pas comme ça qu'un chrétien va être béni. Un chrétien, il doit bénir. L'esprit du jugement, de jugement, empêche la grâce de se manifester. C'est pour ça que le diable, il veut qu'on se traîne toujours ses casseroles, en train de maudire, en train de critiquer, en train de salir. Regardez avec moi dans Luc. Dans Luc, il est résumé le sermon sur la montagne. Dans Matthieu, c'est beaucoup plus long, mais dans Luc, c'est résumé. Luc chapitre 6, beaucoup de chrétiens, d'années de conversion, n'ont jamais, jamais compris ça. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi Dieu leur demandait. Dieu ne nous demande pas cela pour tester notre patience, Dieu nous demande cela parce qu'il va nous bénir. Luc 6, 27. Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Donc, ça prouve qu'on peut avoir des ennemis. C'est comme ça que vous le voyez ? Sinon, Dieu aurait dit, attention, je ne veux pas que vous ayez des ennemis. Il a dit non, aimez vos ennemis. Pourquoi ? Parce que quand on passe des ténèbres à la lumière, il y a automatiquement confrontation. Il y a des gens qui sont contre nous parce qu'on est chrétiens. Si on était comme eux, croyez-moi, on ne serait pas leurs ennemis, on serait leurs meilleurs amis. Donc, il faut aimer les gens qui sont dans les ténèbres. Ou les gens qui nous ont fait des histoires pour rien, pour quelque chose, il faut les aimer. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Mais c'est ça. Quand vous priez pour quelqu'un qui ne vous aime pas parce que vous êtes chrétien, eh bien vous lui faites du bien. Seigneur, je te prie pour cette personne. Je sais qu'elle ne m'aime pas parce que je suis chrétienne, mais moi je te prie, Seigneur, de la bénir, de toucher son cœur. Voilà. Faites-le. C'est ça. Vous vous rappelez, mardi soir, on n'a pas parlé d'une jeune fille qui avait été amenée captive en Syrie. Peut-être qu'elle a vu toute sa famille massacrée, peut-être elle a vu son père tué sous ses yeux, peut-être elle a vu sa mère peut-être même violée, je ne sais rien. Elle a été menée captive en Syrie, elle n'avait peut-être qu'une dizaine d'années, et quand on la voit intervenir dans la maison d'où elle a été placée, qu'est-ce qu'on la voit faire ? Elle dit qu'une chose, « Oh, si mon maître connaissait le prophète qui est en Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Une fille amenée captive, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut le bien de celui qui l'a amené en captivité. Voyez, elle aurait compris le sermon sur la montagne en 5 minutes. Elle a compris ce que c'était d'aimer ce qui nous maudissait. Et c'est une fille, en un verset, on voit qu'elle a plein d'espérance dans son cœur pour quelqu'un qui lui a fait du mal. Elle veut la guérison, elle croit à la guérison. Elle a une foi totale, puisqu'elle croit que vraiment Dieu peut le guérir. Elle a pardonné, parce que quand on n'a pas pardonné, on ne parle pas comme ça. Et elle a une foi vivante. C'est exactement le témoignage de cette jeune fille qui peut ce soir nous permettre de comprendre ce que ça veut dire bénissez. Pourquoi ? Parce que quand on est béni, on est béni. Vous croyez que quand Naaman est rentré à la maison, guéri de sa lèpre, vous ne croyez pas qu'il a dû chercher à voir la jeune fille ? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si à cause d'une petite fille de 12 ans, vous étiez en train de mourir et vous avez été guéri ? Qu'est-ce que vous auriez fait en rentrant à la maison ? Vous l'aurez zappé, la fille ? Allez, fini de préparer le repas pour ce soir. Qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous l'auriez considéré comme votre fille ?
Ouais.
Fait, moi, je pense que je lui aurais acheté une boîte de gâteaux. Et un peu plus. Non ? Vous croyez qu'on ne l'aurait pas gâté ? Quand on bénit, on est béni. Et mes frères et sœurs, appliquez-vous à commencer vos journées en vous imposant cette attitude de cœur de bénir. Le verset 28, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Moi, je me rappelle quand j'étais pasteur, moi, je pensais que quand on était pasteur au début, tout le monde faisait que nous encenser, vous voyez. Et puis un jour, on m'a dit, tu sais, telle personne, elle te critique. Oh, j'étais complètement découragé. Moi, je croyais non, je croyais qu'on allait que m'élever, vous voyez. Et puis, les premières fois, ça m'a vexé. Et puis, à force de lire la Bible, je dis, bénissez ceux qui vous maudissent. Eh bien, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je crois que, de toute façon, vous savez, quand quelqu'un est béni, vous pouvez le critiquer tant que vous voulez. Quand Dieu le bénit, ça ne sert à rien de dire quoi que ce soit. Quand Dieu bénit quelqu'un, vous pouvez faire ce que vous voulez. La bénédiction, elle est sur lui. Dieu, et tant qu'il obéit, la bénédiction de Dieu restera sur lui, quel que soit ce que les gens pourront dire sur lui. Donc ce qui est important, c'est de rester dans un bon état d'esprit et de ne pas laisser l'amertume remplir votre cœur. Parce que c'est ça que le diable veut. Il veut trouver une petite faille pour vous amener à ne pas vivre dans la bénédiction. Rappelez-vous ce qu'on a lu. Bénissez C'est à cela que vous avez été appelé. Vous travaillez quelque part, bénissez les gens. Seigneur, je veux les bénir. Je vous avais raconté une histoire quand j'ai pris l'église de Grouillet. J'étais tout jeune pasteur, c'était ma première église. Et quand je suis arrivé dans cette église, bien sûr, la femme regrettait l'ancien pasteur. C'était comme moi si j'avais chassé le pasteur. Et donc, elle ne pouvait pas me supporter. Mais vraiment, elle le disait à tout le monde. « Ouais, il ne s'est pas prêché. Bon, peut-être qu'elle n'a pas toujours tort. » Mais enfin, bon, etc., etc. Et un jour, il y a un pasteur qui m'écoute. « Gérard, je t'appelle pas même pour te le dire. Madame Untel, je ne sais pas si il faut te le dire, mais elle ne fait que te critiquer. Alors, je ne sais pas si tu faut aller la voir et tout. » Et puis, il m'a parlé. Et puis, ça m'a mis une rage, je me rappelle. Et je me suis dit « Attends, je vais aller la voir. » Je me rappelle, j'étais à mon bureau. Je me suis levé pour aller lui expliquer. Et j'étais à l'angle du bureau, j'ai dit non, ça ne sert à rien. Je me suis mis à genoux, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur le verset qu'on a lu. Bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés. Et bien j'ai dit, je vais la bénir. Je vais la bénir tous les jours. Je l'ai fait un petit peu comme ça coincé, mais je l'ai fait. Alors comme elle avait appris tout ça, bien sûr, elle n'est plus venue à l'église. Et au bout d'un an et demi à peu près, un jour le téléphone sonne, elle dit, allô monsieur Gou, voilà, c'est madame Untel. Je voudrais vous voir. Ah bon, vous voulez me voir? Oui, oui, j'insiste, je voudrais que vous veniez boire le thé à la maison. Bon, je viendrai, je prends rendez-vous. J'arrive, c'est une femme qui était très aisée, etc. J'arrive chez elle, on va dans un salon. Ah non, je voudrais d'abord qu'on aille dans un autre salon. On va dans un autre salon, on me dit, monsieur Gou, voilà ce que je vous ai acheté. Elle m'avait acheté des chemises, un manteau, un blouson, un costume. Elle me dit, monsieur Gou, j'ai eu à cœur de vous offrir tout ça. Et des trucs de marque en plus. Et moi, quand je regardais ça, je pensais à mon petit verset. Bénissez, afin d'hériter la bénédiction. Je ne l'ai pas dit, bien sûr. Mais je crois que c'était une expérience. Vous ne croyez pas? Ce sont des lois. Ce n'est pas des probabilités. Ce n'est pas des suppositions. C'est pas, on sait, peut-être ça marchera. Ce sont des vérités. Si vous bénissez les gens qui vous critiquent, les gens qui vous maudissent, les gens qui vous ennuient, les gens qui vous persécutent, si vous bénissez vos ennemis, je ne sais pas combien de temps ça prendra, ça c'est pas notre affaire. Dieu est catégorique, ça fait partie de notre vocation. Si vous bénissez, c'est à cela que vous avez été appelés, vous hériterez la bénédiction. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'il faut se déterminer, comme David. Vous avez lu le psaume 103 ? Vous avez vu le psaume 103? On y va, s'il vous plaît. Hein? On remonte quelques siècles en arrière. Hein? Quelques siècles en arrière. Dans le psaume 103, vous avez un homme qui a décidé de bénir. Et si je peux vous demander de vous rappeler ceci, c'est ça. Commencez vos journées en bénissant Dieu. Regardez cet homme, je ne sais pas s'il l'a écrit quand il était roi ou quand il était berger, ça n'a aucune importance, il l'a vécu, quel que soit le titre qu'il avait. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et vous savez mes frères et sœurs, si on commençait nos journées en bénissant Dieu parce que bien, on a des yeux pour voir, parce qu'on a des oreilles pour entendre, parce qu'on a des mains pour attraper une tasse de café, parce qu'on a des jambes pour marcher, pour aller dans le jardin. Croyez-moi, est-ce que ce n'est pas des bienfaits? Vous ne connaissez pas des personnes paralysées qui ne peuvent pas bouger? Est-ce que ce n'est pas une bénédiction d'avoir ses bras, ses mains, ses jambes, etc., ses oreilles? C'est une bénédiction. Ce matin, quand je priais, j'entendais les rouges-gorges chanter, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils chantent bien. Et c'est vrai, chaque oiseau chante différemment. Et ce n'est pas une grâce d'avoir des oreilles. Ce n'est pas d'avoir des yeux, d'avoir des mains. L'autre jour, j'ai entendu qu'un gars il s'était fait exploser les deux mains en manipulant un jeune de 16 ans. Il a tripoté là, des explosifs, des machins. Il a fait sa cuisine avec une recette sur Internet. Il s'est fait exploser les deux mains, amputer les deux mains, 16 ans. Et si on apprenait à bénir Dieu pour tous nos bienfaits, je crois qu'on entretiendrait cet état d'esprit de louange. Parce que ne me dites pas que quelqu'un qui adore Dieu juste le dimanche matin à l'église est un adorateur. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la religion. Il peut le faire dans un très bon état d'esprit chaque dimanche, et j'espère que c'est le cas. Mais je crois qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui, qu'il soit à l'église ou pas, il est tout le temps en train de bénir le Seigneur parce que Dieu est Dieu et qu'il règne sur toutes choses. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ce n'est pas une bénédiction, ça, de savoir qu'on a un Dieu qui pardonne. Il n'y a pas de quoi bénir Dieu pour toutes les fois où on avait dit « Seigneur, j'arrête, je ne le ferai plus » et on a recommencé et que Dieu nous a quand même pardonné. Vous vous rendez compte si Dieu nous avait dit « Mais qu'est-ce que tu as dit ? Tu as dit que tu ne le ferais plus ? » Eh bien, c'est comme ça. Tu ne te pardonnes plus. Vous ne croyez pas qu'il y a de quoi bénir Dieu ? Non ? Moi, je trouve qu'il y a de quoi bénir le Seigneur. Mais il ne faut pas bénir que Dieu. Bénir Dieu, ça, on peut le faire en boucle. Mais mes frères et sœurs, vous ne croyez pas qu'il guérit toutes tes maladies ? Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un ce soir ? Eh bien, oui. Est-ce que Dieu peut guérir quelqu'un de votre famille ? Mais oui. Il guérit toutes tes maladies. Il délivre ta vie de la fosse. Il te couronne de bonté et de miséricorde. Ce matin, cet après-midi, j'ai posé la question, justement, quelle est la différence entre la miséricorde et la grâce ? Est-ce que quelqu'un peut me le dire ? Quelle est la différence entre la miséricorde et la grâce ? Madame Dubois, vous avez la réponse. La miséricorde, c'est que Dieu ne nous traite pas selon ce qu'on mérite. C'est ça ? Hein ? Vous ne croyez pas que si Dieu nous traitait selon nos péchés, on aurait certainement des difficultés ? Franchement, Dieu ne nous traite pas selon nos péchés. C'est la miséricorde. Et la grâce, c'est l'inverse. C'est que justement, Dieu nous donne ce qu'on ne mérite pas. Par contre ça, il nous le donne. Il n'y a pas de raison de bénir Dieu. Ce qu'on mérite, il ne nous le donne pas de mal. Et ce bien qu'on n'a pas, il nous le donne. Vous ne trouvez pas que c'est formidable ? Oui. Alors bénir Dieu, mais bénissez. Vous bénissez vos frères et sœurs ? Votre mari, vous le bénissez ? Votre femme, vous la bénissez ? C'est ça que Dieu demande, de nous bénir les uns les autres. Est-ce que vous bénissez Dieu d'avoir une église, d'avoir du travail, d'avoir une maison, d'avoir un toit, d'avoir la santé ? Oui, mon âme bénit l'Éternel. Écoutez, moi je vous le dis, si vous voulez la bénédiction, vivez dans cet esprit de grâce, de bénir les autres. Et ne vous faites pas piéger par les ruses du diable. Ils sont restés 40 ans dans le désert parce qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Et après, ils ont murmuré contre Dieu, parce que, bon, vous savez, ça, il faut bien trouver un pigeon, je veux bien, mais en vérité, quand on se plaint, c'est toujours, en fin de compte, contre Dieu. Qu'on le veuille ou non, si on remonte à la source, c'est qu'on se plaint contre Dieu. Alors, mes frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord pour vous appliquer à affermir votre vocation ? C'est ça l'évangile. Je m'applique à affermir ma vocation, je suis appelé à bénir, eh bien, je vais bénir. Les gens qui m'aiment, bon, ça ne pose pas de problème. Bénir les gens qui vous aiment, est-ce que c'est un problème ? Non. Mais bénir les gens qui vous critiquent, bénir les gens qui vous salissent, bénir les gens qui vous maudissent, c'est peut-être un apprentissage, mais croyez-moi, ça vaut la peine. Jésus, est-ce qu'il ne l'a pas fait ? Est-ce qu'il l'a fait, Jésus ? C'est pas notre exemple, Jésus ? C'est pas écrit dans l'épître de Pierre que maltraité ne faisait pas de menaces, qu'injurié, il s'en remettait à celui qui juge justement. Il nous a donné un exemple afin que vous suiviez ses traces, car c'est aussi à cela que vous êtes appelés à souffrir. C'est dans l'épître de Pierre. Et rappelez-vous, chaque fois que vous verrez, c'est à cela que vous avez été appelés, ça fait partie de notre vocation. Et si vous le faites, vous hériterez la bénédiction. Gloire à Dieu. Vous voulez être béni ? Est-ce que vous croyez que Dieu veut vous bénir ? Alors bénissez. On va le faire, on va bénir ce mois d'août, cette année 2012, nos enfants, la rentrée, le travail, tout. On va le faire maintenant, on va terminer en bénissant, et on va, en sortant, on le fera, demain matin en se levant, vous verrez. Ça prendra peut-être un mois, deux mois, six mois, un an, mais vous hériterez la bénédiction. C'est incontournable. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Tu nous as montrer quelle devait être notre attitude au plus profond de notre cœur pour hériter la bénédiction pour laquelle tu es mort sur le bois de la croix. Oui, nous croyons, Seigneur, que ta volonté, c'est de bénir. Que tu veux bénir tous les hommes. Nous le chantons, mais nous voulons véritablement le vérifier et nous demandons cette grâce continuelle de bénir, de remercier, d'être reconnaissant, de faire du bien, de prier pour. Seigneur, oui, nous bénissons ce pays, nous bénissons cette ville, nous bénissons tous les endroits où tu nous appelles à travailler, cette assemblée dans laquelle tu nous as placés, nos frères et sœurs, nos amis, tous ceux avec qui nous travaillons, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui peut-être dans nos familles nous critiquent parce que nous sommes chrétiens. Eh bien, Seigneur, nous voulons tous les bénir. Seigneur, nous le sommes devant toi et nous ne voulons pas passer à côté de cette instruction que tu nous communiques ce soir Oui, Seigneur Jésus, nous bénissons. Que ton nom soit glorifié. Apprends-nous à compter tous tes bienfaits. Si David l'a fait, nous pensons que nous pouvons également le faire, de te bénir pour tous les bienfaits de chaque jour, de chaque nuit, de chaque saison, pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Amen.